L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. les rues pour asperger les rues de désinfectants. Les déchets aussi seront pris 2 fois par jour. Ordre sera donné à tous les habitants de faire euthanasier les animaux, même les domestiques. Tout ceci est fait pour éviter les épidémies. L'eau est réquisitionnée, l'alimentation aussi. Il y aura des bons d'alimentation. Des personnes se sont embauchées pour contrôler, pour surveiller ces nouvelles décisions. Rambert est nommé parce qu'il est très connu, responsable pour la ville du service santé. Les choses se mettent en route. Rambert et son infirmière Elisabeth Thévenet s'occupent d'ouvrir des services supplémentaires et se préparent à recevoir beaucoup de monde. On désinfecte la ville et l'eau est surveillée, etc. La mort des animaux domestiques crée des ennuis. Les propriétaires sont très réticents et cachent leurs animaux chez eux. Par contre, la SPA sillonne les rues pour attraper les chiens, chats, rats, oiseaux. Les animaux sont euthanasiés. Les personnes protestent. La population prend peur lorsqu'elle voit ces actions. Elle pense qu'il y a sûrement des épidémies. Cela fait des paniques et des maladies imaginaires. Le standard santé est débordé. Les personnes qui se sentent mal doivent, avant d'aller voir le médecin, téléphoner au service téléphonique santé qui fera par téléphone le bilan de la santé de la personne et verra s'il y a besoin d'aller voir un médecin. Si les personnes ne font pas et qu'elles sont malades, elles auront une amende, et si cette personne, pour des raisons de santé ou de décès, ne peut pas payer l'amende, ce sera la famille qui le fera. Des gens ont peur et pensent qu'ils sont perdus et vont bientôt mourir. Les voisins bien intentionnés alertent le service téléphonique et l'on rentre de force chez la personne pour la prendre. Même si cette personne n'a rien, elle subira le sort de ceux qui sont malades parce que le service sanitaire est débordé et n'a pas le temps de bien examiner les gens. Et puis de toute façon, les personnes qui ne sont pas malades à cause du manque de nourriture sont maigres et la chaleur qui les rend fiévreux, on peut penser qu'ils sont malades. Faut que le service sanitaire est parti en vitesse, pour la plupart en laissant la porte ouverte, en prenant le malade pour le service médical, ils ont laissé la porte ouverte pour le service qui va désinfecter l'appartement. Si cette personne est une personne seule et qu'il n'y a plus personne dans l'appartement, les voisins en profitent pour faire une razzia dans l'appartement et prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Ils se disent que de toute façon, ça ne servira plus à la personne qui est partie ne reviendra plus. La plupart du temps, on dénonce des personnes qui sont seules, car les voisins, comme ça ils savent que le logement restera inhabité et qu'ils pourront faire la razzia. Mais le service sanitaire prend aussi des personnes qui habitent avec d'autres personnes. Là, ils prennent la personne malade et prennent les gens qui vivaient avec le malade pour les mettre en quarantaine dans des ghettos. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui sont hospitalisés, soit dans les hôpitaux ou les gymnases. Parce qu'avant qu'ils ne meurent, il faut faire un semblant de soins et puis on leur donne pour éviter qu'ils souffrent trop. Et la plupart des malades ne rentrent pas chez eux, décèdent et vont directement au crématoire. Les médecins et Rambert s'aperçoivent que les personnes ont de la fièvre, des ganglions et sont très maigres. Ils meurent aussi très rapidement. Rambert décide, c'est de prendre des échantillons, des ganglions, pour faire des analyses. Une fois qu'il est le résultat, il dit à Elisabeth dans son bureau. C'est la peste. Surtout, il faut cacher la vérité. Alors, il envoie un message par ordinateur à toutes les personnes du service de santé. Médecins, infirmières, etc. pour leur dire qu'il y a la peste dans la ville et qu'il faut cacher la vérité. La maladie causée par la chaleur, c'est-à-dire la peste, fait de plus en plus de morts en France, dans les villes. Les autorités cachent la vérité. On ne peut pas faire de quarantaine parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de pays l'avaient. Les gens discutent entre eux et se disent qu'il y a quelque chose, une maladie très grave. Un vieil homme, petit, cheveux blancs, habillé d'un costume froissé, gris, dit à une vieille femme habillée d'une robe rouge dans la rue. C'est sûrement quelque chose de très grave, parce qu'on ne dit rien. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, sûrement une maladie très dangereuse. Elle lui dit, alors, nous allons tous mourir. Il lui dit, en tout cas, moi, je vais à la campagne. Elle lui demande, qu'est-ce que ça peut être comme maladie? Il lui dit, je ne sais pas, peut-être la peste. Elle est effrayée. Jeanne est désespérée, son petit est parti. Elle est furieuse aussi quand elle est laissée ouvert la porte. Elle dit au chauffeur, il faut le rechercher de partout, vous avez compris? Il lui dit, bien madame. Et il va retrouver sa maîtresse. Jeanne est au salon, fait les 100 pas nerveusement.
On a frappé à la porte. Elle dit, entrez! C'est la bonne. Madame, il y a monsieur Albert qui veut vous voir. Elle dit en soupirant, dites-lui de venir ici. La bonne se retire. On a frappé à la porte. Entrez! Entre Albert.
Il lui dit, je suis comme ça, aux nouvelles. Elle voit qu'il a le sourire aux lèvres. Elle comprend. Elle lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, rien, je suis aux nouvelles. Elle lui dit furieuse, le petit est parti. Tu es content? Il lui dit, ce n'est qu'un assassin. Elle lui dit, c'est toi qui l'as fait partir. Que va-t-il devenir dans cette chaleur? Et puis, il risque de faire des bêtises. Je te déteste. Il lui demande. Que se passe-t-il? Je n'y suis pour rien. Elle lui dit. Tu sais très bien qu'il est parti. Avant que je te le dise, je savais que tu savais. Il lui dit. Et alors? Je n'y suis pour rien. Elle lui dit, je sais que c'est toi. Il lui dit, je te jure que c'est faux. Elle lui dit, ne mens pas, cherche-le. Il lui dit, je vais le chercher, je te le promets. En se disant qu'il ne cherchera pas, il aimerait l'éliminer. Soupire, il lui dit, bon, eh bien je vais te laisser, je reviendrai lorsque tu sauras mieux. En rentrant chez lui, il retrouve sa femme au salon et lui dit « Il est bien parti, la vieille est dans tous ses états. » Elle lui dit « Nous sommes tranquilles et tout est à nous. » Il lui dit « Il faut le faire rechercher et si on le retrouve, il faut le faire disparaître définitivement. » Elle lui dit, tu as l'esprit de famille, toi. Il lui dit, comme ma famille. Oui, comme ma famille. Un moment, il réussit à se relever sans savoir comment, pauvre Adrien. Il se met à marcher comme un automate, en titubant. Il a des difficultés à rester debout. Il ne sait pas pourquoi il marche, mais il marche. Il ne sent plus la faim ni la soif. Il a de la poussière sur son visage et ses mains. Ses yeux sont fixes. Il marche toujours en titubant. Il ne sait plus rien. Marche comme ça pendant un long moment, il ne sait pas. Il marche tellement, tellement comme un automate. Une voiture s'est arrêtée à ses côtés. C'est une voiture blanche. Un jeune homme ouvre la glace et lui demande « Vous allez quelque part? Si vous voulez, je peux vous y amener ?» Adrien ne répond pas. Le jeune homme pense qu'il n'est pas normal. Il prend une bouteille d'eau qui est dans la voiture et asperge le visage d'Adrien. Ça le rafraîchit. L'eau dégouline sur son visage et le réveille un peu. L'homme demande « Vous allez mieux? Vous voulez que je vous mène quelque part ?» Adrien ne dit rien. Alors l'homme ouvre la portière avant de sa voiture, le fait asseoir à ses côtés, puis met la voiture en route. Thank you. dois avoir dans les 40 ans. Il est grand, mince, cheveux châtains, yeux bleus, un côté distingué. Il voit qu'Adrien ne dit rien, alors il ne lui pose pas de questions. Non, il ne lui pose pas de questions. Après avoir roulé pendant quelque temps, il a arrêté sa voiture devant l'entrée d'un restaurant auberge. Il fait sortir Adrien et ils entrent dans le restaurant. C'est un restaurant de style campagnard. Pour les touristes et quelques personnes attablées, ce sont surtout des routiers. Un serveur va à eux, les grands, cheveux blonds, dans les 25 ans, habillés en pantalon noir et chemise blanche. Il demande : Vous désirez, messieurs ? L'homme lui dit : Nous aimerions ces deux couverts, s'il vous plaît. Le serveur les mène à une table. Ils s'assoivent. Une demi-heure plus tard, ils mangent en silence. Le repas est assez copieux, malgré les restrictions. Adrien mange vite et se sent mal. Il a mangé trop vite. Tout d'un coup, il a envie de vomir. Il dit à l'homme, « Je vais vomir. » Vite, il se lève et demande au serveur où sont les toilettes et court. L'homme le suit en vitesse et, une fois dans les WC, il a vomi et l'homme lui a maintenu la tête pour qu'il se vomisse. Puis, l'homme l'a nettoyé le visage avec son mouchoir. Adrien essoufflé lui dit « Merci ». L'homme lui dit « Ce n'est rien. Il faut que je me présente. Je m'appelle Robert Véran. » Adrien lui dit « Moi, c'est Adrien Forvigny. » Robert lui dit « Eh bien, enchanté Adrien. » Et ils sont retournés dans la salle du restaurant. Ils n'ont plus faim, tous les deux. Robert lui dit « Je crois que ce que nous ferions bien, c'est de prendre des chambres pour nous reposer. Et puis, il fait trop chaud pour voyager. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Adrien lui dit, « C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent ?» Robert lui dit, « Moi j'en ai, et je paierai la chambre. » Adrien lui demande, « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Robert lui dit, « On doit bien s'entraider. Allez, venez. » Robert se lève et Adrien aussi. Robert va à la banque où se trouve un homme d'une cinquantaine d'années, un peu fort, chauve, habillé en chemise blanche. Robert lui dit, nous avons fini de manger, je paye le repas, mais nous aimerions c'est avoir deux chambres, s'il vous plaît. L'homme lui dit, bien monsieur. Une fois qu'il est payé le repas, un domestique les mène à l'étage où se trouvent les chambres. Ils ont une chambre l'une à côté de l'autre. Ce sont des pièces de taille moyenne, meublées d'une façon simple, genre campagnard moderne. Les chambres ont un lit à deux places avec une salle de bain. Robert demande à Adrien, cette chambre vous plaît-elle? Adrien lui dit, oui, merci. Robert lui dit, eh bien, je m'en vais vous laisser vous reposer.
Le domestique dépose la clé de la chambre sur la commode et sort. Robert, avant de s'en aller, prend la clé, sort de la chambre d'Adrien, en prenant la porte de la chambre à clé. Adrien, une fois seul, ne cherchant pas à comprendre, il a toujours la tête vide, décide de prendre une bonne douche.
Une demi-heure plus tard, il est couché sur le ventre, sur le lit, nu, des bras et les jambes écartés. Après un certain temps, il ne sait pas, peut-être est-ce le lendemain matin, il se réveille. Il est toujours aussi chaud, mais se sent un peu mieux. Alors, il décide de sortir de la chambre.
Adrien ne répond pas et continue à courir. Il descend les escaliers. Robert continue à lui courir après et réussit à le dépasser et à l'arrêter. Il maintient bien l'épaule. Adrien se défend. Il lui crie, laisse-moi tranquille. Robert lui dit, tu ne veux pas prendre ton petit déjeuner avant de partir? Adrien ne dit rien. Alors Robert le mène dans la salle à manger.
À la salle à manger. Il le fait asseoir à une table.
Robert lui demande, pourquoi voulais-tu partir? Adrien ne répond pas. Robert commande le petit déjeuner et il mange en silence.
Après avoir pris leur petit déjeuner, Adrien se sent mieux, mais n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. L'homme le mène à la voiture et le fait asseoir près de lui. Adrien se laisse faire. Puis, Robert Mais la voiture en route. Le voyage est long. Adrien ne s'en inquiète pas. Robert semble bon. Et puis au bout d'un moment, on s'arrête pour déjeuner. On s'arrête aussi pour dormir dans les auberges-hôtels. Adrien ne parle toujours pas, il regarde droit devant lui et semble être en dehors de tout. Dans les restaurants, on parle beaucoup du temps et des bêtes qui meurent. Un matin, alors que Robert va se mettre à la place du chauffeur, Adrien le bouscule et le fait tomber et prend la place du chauffeur. Robert essaye de dégager Adrien, mais ne peut pas. Alors vite, avant qu'Adrien ne mette la voiture en route, il rentre dans la voiture. Robert essaye de prendre le volant, mais Adrien tient bien le volant et lui donne des coups et crie. Robert prend peur. Alors il le laisse un moment conduire. Adrien est tout heureux de conduire. Puis au bout d'un moment, Robert veut prendre le volant, mais Adrien ne veut pas. Il devient violent, donne des coups. Robert lui dit furieux, « Arrête de faire l'imbécile. Ce que tu fais, tu risques de nous faire avoir un accident. » Adrien lui crie, « Non, je sais conduire. » Il appuie sur l'accélérateur. La voiture file à plus de 100. Alors Robert panique et pense qu'il est peut-être très dangereux et se demande s'il n'a pas fait une bêtise en le promenant avec lui. Robert lui crie « Attention au virage !» Il voit qu'Adrien ne réagit pas. Dans un geste brusque, il prend le volant en poussant Adrien. Adrien a été surpris par le geste. Il s'est penché en arrière et en se penchant en arrière, il a lâché les pédales. Alors, Robert a pris le volant, mis les pieds sur les pédales et prend en main la voiture pour qu'elle s'arrête. Il ouvre la portière du conducteur, pousse Adrien pour qu'il puisse sortir de la voiture. Adrien tombe à terre, il est furieux. Il ne peut réagir car Robert sort de voiture en vitesse, le relève et le met sur le siège arrière et entre dans la voiture. Adrien n'a rien dit, il est suffoqué. Robert met la voiture en route. Adrien ne dit rien. Il boude, croise ses mains sur sa poitrine. Robert lui dit, « Tu as failli nous faire avoir un accident en allant tout droit sans tourner pour les virages. Nous avons failli s'étomber dans le fossé. Tu es dangereux. Je ne veux plus que tu touches à la voiture. » Adrien ne dirait rien. Robert se demande qui est ce jeune. N'a-t-il pas fait une bêtise en le prenant? Jeanne décide, c'est de mettre un avis de recherche dans les journaux. Elle le dit à Albert, qui est venu la voir. Ils sont tous les deux au salon. Albert lui dit furieux. « Surtout ne fais pas ça, ça va donner une mauvaise publicité. » Elle lui dit « Il faut bien faire quelque chose pour le rechercher. » Il lui dit « Il a déjà fait des fugues plus d'une fois et il est revenu de lui-même. » Elle lui dit « Non, la plupart du temps, c'est le chauffeur qui l'a retrouvé. » Il lui dit « Eh bien, dis à ton chauffeur de le rechercher. » Elle lui dit « Ça fait des semaines qu'il cherche et ne trouve rien. » Il lui dit « Eh bien, attendons encore. » Elle lui dit, « Non, je veux mettre une annonce dans les journaux. » Il lui dit furieux, « T'es complètement folle. Tu ne penses pas au groupe. » Elle lui dit, « Non, pour le moment, le groupe, je m'en moque. Ce qui compte, c'est mon petit-fils. » Il lui dit furieux, « Eh bien, moi, non. » Et il s'en va. Lorsqu'il revoit sa femme, il lui dit « Il faut absolument le retrouver. Absolument. » Après un long trajet où Adrien n'a fait que de bouder, Robert a arrêté sa voiture dans la cour d'une ferme. Il dit à Adrien, « Voici arrivé chez ma mère, tu pourras te reposer et prendre des forces. » Adrien ne dit rien. Ils sortent de voiture. Des chiens courent à eux et aboient méchamment. Sort de la ferme une femme, grande, maigre, cheveux blancs à chignon. L'air revêche. Elle est habillée en blouse noire et porte des bottes noires en caoutchouc. Elle va vers eux et fait taire les chiens. Silence ! Ça suffit ! Couché. Pourquoi viens-tu? Que viens-tu faire? Robert lui dit. Pour avoir tes nouvelles? Il veut l'embrasser, elle se retire. Elle voit Adrien et lui demande. Qui est celui-là? Robert lui dit, c'est un jeune, Adrien. Il a besoin de se reposer un peu et prendre des forces. Est-ce que tu peux le garder quelque temps? Elle lui dit, je n'ai pas le temps. Et puis, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non, ramène-le. Robert lui dit, rends-moi service, garde-le quelque temps. Il soupire et dit, bon, d'accord. Elle pense que c'est peut-être le fils de son fils. Il lui demande, tu nous fais rentrer? Elle lui dit, je suis bien obligé.
Ils entrent dans la maison, la ferme. On rentre directement dans une pièce qui est la pièce commune, avec une cheminée, un évier, un coin cuisine, une table en bois et autour des bancs et un buffet. Il y a un mur, au mur des calendriers, des postes. Les murs sont sales, pleins de suie. Le sol, c'est de la pierre usée. Il fait très sombre. Elle leur demande, « Voulez boire quelque chose? Manger ?» Il lui dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle lui dit, « Pas grand-chose, je suis pas riche, moi. » Il lui dit, « Donne-nous quelque chose à manger. Après, tu me mèneras aux chambres. » Robert s'assoit. Adrien Boudor s'assoit à côté de lui. La mère va chercher dans le buffet deux assiettes et le couvert
Elle dépose sur la table. Elle va prendre du pain et du lard. Elle leur donne. Adrien regarde le lard en faisant la grimace. Il n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Mais comme il a faim, il en mange. Personne ne parle et la femme reste debout à les regarder manger. Ils mangent et boivent de l'eau. Robert se lève une fois qu'il est fini de manger. Adrien aussi. Et Robert dit à sa mère, il faut trouver quelque chose où il peut dormir. Ta mère lui dit, il n'y a pas grand chose. Peut-être le grenier. Robert lui dit, ça pourra aller. Alors, ils suivent la mère qui les fait monter un petit escalier de bois qui est au fond de la pièce. C'est étroit, plein de poussière. Arrivé au deuxième étage, elle ouvre une porte, elle les fait entrer. C'est une pièce, ou plutôt un grenier, où il y a des pommes de terre à terre. Il fait très chaud, plein de toiles d'araignée, et ça sent une drôle d'odeur. Dans la pièce, contre le mur, il y a un lit en fer qui est replié. Elle le prend. Et le met au milieu de la pièce. Puis, elle l'ouvre. Elle demande à son fils, « Ça pourra aller ?» Il lui dit, « Oui, je crois, il faudra y mettre des draps. » Elle lui dit, « Je vais voir ça. » Et sort de la pièce. Robert demande à Adrien, « Ça pourra aller ?» Adrien ou ses épaules. Il pense surtout à la voiture qu'il aimerait conduire. La vieille revient avec des draps usagés et fait le lit. Voilà, Robert dit à Adrien, je crois que tu feras bien de te reposer. Et il le laisse. Adrien se retrouve seul.
Dégoûté du lieu et de l'odeur, fatigué, il décide de s'allonger, mais n'arrive pas à s'endormir, car il fait extrêmement chaud et étouffant dans cette pièce, ou plutôt ce grenier. Pendant ce temps, Robert dit à sa mère à la cuisine, « Surtout fais bien attention. » Pour qu'il ne se sauve. Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « Il peut apporter gros. » Elle lui demande « Qui est-ce ?» Il lui dit « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que son histoire doit être intéressante. » Elle hausse ses épaules et lui dit « Encore une de tes histoires tordues. »
Adrien ne comprend pas et se laisse guider. L'impression d'être dans un rêve. Il dort toujours dans le grenier et est nourri à peu près, correctement. Il ne parle pas. Se sent très surveillé, ne peut sortir dans la cour. Il a peur des siens qui l'empêchent d'aller vers la sortie. Il ne cherche pas à s'en aller. D'ailleurs, il n'y a pas que les chiens dont il a peur, mais il a peur de tous les animaux. La vieille ne lui dit presque rien. Lorsque c'est l'heure de manger et d'aller se coucher, elle le lui dit et c'est tout. Quant à Robert, on ne le voit presque pas. Il est toujours en vadrouille. Adrien aimerait c'est pouvoir prendre la voiture et fuir. Mais malheureusement, la voiture, lorsque Robert ne s'en sert pas, elle reste dans la cour. Et les clés ne sont pas dessus. Pauvre Adrien, les jours passent comme dans un brouillard. Il ne parle pas, ne réagit pas. C'est comme s'il était en sommeil. Jeanne ressort des tas d'appels téléphoniques et des lettres qui disent qu'ils l'ont vu passer et arrêter chez eux. Et certains même demandent une rançon. Alors Jeanne demande à un détective privé d'aller voir ces personnes. Malheureusement, cela ne donne rien et l'on dit qu'il est parti ou les personnes qui ont demandé les rançons ont disparu de peur d'être pris par la police. Jeanne est au désespoir. Pendant ce temps, Robert va tous les jours au village prendre au café tabac des cigarettes et le journal pour lire en buvant une bière. Un jour, il voit l'annonce de la recherche d'Adrien dans une photo avec sa photo. Il le reconnaît bien. Oui, il le reconnaît bien et il est fou de joie. Décide de ne rien dire. Le climat se dégrade de façon catastrophique dans le monde. Il fait tellement chaud que les deux pôles nord et sud n'ont plus de glace. Au pôle nord, les Russes et les Canadiens se battent pour partager le pétrole qu'il y avait sous la glace. Depuis de très nombreuses années, les Russes ont déposé sous la glace un drapeau en disant que ça faisait partie de leur continent et que c'est la continuité de leur territoire. Ils commencent à forger et cela fait de la pollution. Et les scientifiques sont furieux. Les Canadiens font la même chose. Ce qui compte pour tous, c'est l'argent, et le plus d'argent possible, même si cela nuit à la Terre. Les animaux qui vivaient dans ces deux pôles, les ours, les oiseaux, les phoques, etc., morts de chaleur et du manque de nourriture. Comme les glaces fondent, les eaux des océans montent et créent des inondations. Plus de Pays-Bas, une partie des côtes européennes, de l'Amérique du Nord et du Sud, sans compter les îles qui disparaissent complètement parce que submergées par l'eau. Tout ceci crée énormément de morts
car les raz-de-marée sont fulgurantes et très rapides. On ne peut rien faire. Les gens n'ont pas le temps de s'éloigner. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Rebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.